Si on commençait par le jour parfait.
Un jour, ce sera le jour parfait.
Dans la ville, il n'y aura pas de bruit. Dans les corps, il n'y aura pas de peur. Et dans les yeux, pas de fatigue.
Alors j'irai au studio de répétition, et mes meilleurs amis seront déjà là, à m'attendre et à penser. On a de nouveaux textes qu'on veut essayer ce jour-là.
J'arrive, tout le monde me salue et on rit. Et c'est bien de se retrouver, car on est proches.
Pas proches, mais proches.
Il y en a qui ont fait la fête toute la nuit, et qui ont travaillé à des arrangements musicaux.
Personne n'est vide.
Personne n'est vide.
On a la rage de vivre encore.
Et le texte est là, et certains entrent en scène, et je monte à mon tour sur le plateau et on commence juste à jouer.
De vieilles histoires qui parlent de notre temps.
Le jour parfait, c'est un extrait d'un texte de Falk Richter, Kelly et Lorelai, et ça fait partie de votre spectacle qui s'appelle Proche, que vous n'avez pas encore pu jouer parce que c'était prévu en mai dernier. Vous avez écrit un manifeste à la place, et ça s'appelle Comment y croire encore. Pourquoi vous avez écrit ce manifeste ?
Le manifeste, on l'a écrit tout d'abord pour... pas comme compensation du fait qu'on pouvait pas jouer, mais pour dire qu'on était toujours là et qu'on y croyait encore, et qu'on pensait que quelque chose d'autre était possible, qu'on allait le faire. Et ce manifeste, on l'a fait pendant le confinement, du coup, à la suite de plusieurs semaines de recherche où on s'est nourris tous les uns les autres et les uns avec les autres. Et on l'a écrit pour à la fois remercier ceux qui nous accompagnent et ceux qui sont là avec nous, mais aussi pour essayer de montrer qu'on était toujours là et qu'on est toujours là pour porter notre voix.
Kelly ?
Oui, que malgré tout ce qui est en train de se passer, que c'est compliqué, mais que l'envie et le besoin de continuer à porter notre message est important.
Ouais, je dis moi, Wade, vous répondriez quoi à cette question ? Comment y croire encore ? Posée par la belle jeunesse.
Je n'ai pas de réponse... qui consiste à donner un protocole. La question est plus importante que la réponse, parce qu'à partir du moment où on énonce cette question, c'est qu'il y a le témoignage d'une blessure, d'une faille. Quand on dit comment y croire encore, c'est qu'on est en danger, on se ressent en danger spirituel, parce qu'il n'est pas question de comment fonctionner physiquement encore, c'est pas ça la question. La question, c'est comment y croire, et croire, Le verbe croire est un verbe beaucoup plus dangereux que l'on ne le pense. Et quand on utilise le verbe croire, on ne s'adresse qu'à la notion d'esprit. C'est l'esprit. Donc comment y croire encore dans un monde qui a tout ramené au physique, c'est-à-dire la notion de survie, puisque on nous a ramené pendant, même encore aujourd'hui, on nous amène à notre condition d'animaux cherchant à tout prix à rester, à préserver l'espèce, au fond. Nous ne sommes plus que des tubes digestifs, quoi. Manger, et puis déféquer, et puis rester en vie, voilà. Donc, le physique, la santé, etc. Et comment y croire encore, c'est-à-dire comment sortir de la hiérarchisation qui veut qu'il y a maintenant des choses qui sont plus importantes que d'autres. Le physique est plus important que l'art. Donc on refera de l'art quand ça sera possible. Maintenant, pour l'instant, il faut rester en vie. Et bon, eh bien, toute cette dialectique, on va dire, qui nous ramène à ce qu'il y a de plus animal. Puisque, au fond, préserver l'espèce, c'est nous ramener à nous dire, là, s'il se passe quelque chose, sauve-toi toi d'abord. Parce que l'animal, il va d'abord se sauver lui-même. Or, croire, c'est croire que on va d'abord sauver les autres aussi, et qu'en sauvant les autres, on redevient un groupe. Donc, dans le verbe croire, il y a tout ce qu'on peut appeler l'effort de rester humain. Donc, poser cette question, le fait qu'elle pose cette question, traduit pour moi instinctivement la mise en danger de cette humanité-là. Maintenant, la réponse, on voit bien, n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est de rappeler le danger de ce qui est humain en nous, et qu'on met en danger presque avec acceptation. On accepte tous de mettre l'humanité en danger tout simplement pour rester en vie.
Il est 20h sur France Culture et on a dû prendre nos distances. Or, le théâtre, c'est de la présence. Mais il y a eu quelques belles nouvelles à l'intérieur de la mauvaise. Maintenant, on sait pourquoi on n'est pas fait, définitivement. On n'est pas fait pour ne pas être ensemble, on n'est pas fait pour ne pas se toucher, on n'est pas fait pour arrêter les embrassades, comme l'annonce à la radio nous le conseillait. On n'est pas fait pour le contraire du théâtre, pour être séparés. On est fait pour voir des êtres humains, les voir, les écouter. On a cherché à le faire par tous les moyens. On s'est appelé, enregistré, écrit. Les théâtres ont fermé, les scènes étaient vides. Et puis, elles ont été à nouveau tellement désirées, depuis tellement d'appartements, de maisons, de chambres, de salons, comme si le théâtre était plus vivant que jamais dans les désirs et dans les pensées. La liste de ce qui n'a pas eu lieu est grande, mais la liste d'attente est immense. On est plusieurs, on est beaucoup. On sera à nouveau 10, puis 100, puis 1000. On réinventera la proximité. Et ça a déjà commencé cet été, au Théâtre de la Colline à Paris, où Wajdi Mouawad a appelé cette reprise « au point du jour », parce que ça renaît. Dans son journal de confinement, il avait posé des questions. Qu'est-ce qui est sublime et qui meurt? Qu'est-ce qui s'en va? La troupe de La Belle Jeunesse à Tremblay, qui n'a pas pu jouer son premier spectacle en mai, a donc écrit un manifeste, Comment y croire encore, en prouvant qu'elle y croyait très fort. La Belle Jeunesse, ça fait du bien juste à prononcer, et on voudrait se taire après pour laisser imaginer ce que ça promet. Alors on sait qu'avec elle, entre autres, on va retourner au théâtre, masqué, et puis un jour bientôt on va reprendre les embrassades, les gestes ne seront plus des barrières, puisque rien ne peut annuler la puissance de la scène et sa façon de tenir la vie en vie. Pour ouvrir cette saison incertaine où il va falloir rêver et inventer, nous sommes avec le metteur en scène et écrivain Wajdi Mouawad, qui dirige le Théâtre National de la Colline à Paris et qui a eu envie de venir pour rencontrer La Belle Jeunesse en studio. La Belle Jeunesse, c'est un groupe de jeunes gens de 18-20 ans, créé avec le théâtre Louis Aragon de Tremblay en France, suite à leur option théâtre au lycée. La Belle Jeunesse ce soir, c'est Kelly Cheng et Lorelai Morisseau. Leur premier spectacle devait avoir lieu en mai dernier, il s'appelle Proche au pluriel, et ce sera finalement en octobre. À la musique, Clara Isé pour L'Élan et sa chanson du printemps, Notre Océan, avant son concert à la Maroquinerie, ce sera le 19 octobre. C'est tous en scène sur France Culture. Et ça commence là où ça a commencé, en Chine. Nous sommes à Pékin et il y a quelques mois soudain, Zhao, vieux monsieur qui vit et travaille comme gardien de théâtre au Drum Tower West, s'est retrouvé tout seul à l'intérieur. La voix de Zhao qu'on entend, c'est l'acteur et metteur en scène Sifan Shao qui l'a enregistré depuis Pékin, où les théâtres d'État ouvrent en ce moment pour des reprises seulement, mais pas encore pour des créations. Et Zhao qu'on entend là dit « Je restais au théâtre, je ne pouvais aller nulle part. Tous les jours, je nettoyais le lieu selon les recommandations du gouvernement. » Je désinfectais tout une fois par jour, je sortais juste pour acheter des nouilles instantanées chez le marchand de légumes à côté. Nos portes restent fermées, je suis seule ici. Que faire alors? Je trouve chaque jour des choses, un coup de balai par-ci, un coup de balai par-là. Mais cette année, jusqu'à présent, il n'y a rien ici, moi tout seul, tous les jours au théâtre. Sifan Shao, vous êtes avec nous depuis Pékin, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends très bien. Bonjour Élie.
Bonjour, on vient d'écouter la voix de Zhao et il paraît qu'il a un accent très fort d'une région du nord de la Chine, c'est ça?
Oui, il vient de Zhangjiakou, une ville à 5 heures de Pékin, dans le nord de Pékin.
Et Zhao, il fait partie des gens que vous avez interrogés, parce que Sifan, vous avez eu envie d'avoir des nouvelles de vos amis de théâtre.
Oui. En fait, tout a commencé par une soirée où je discutais avec un ami comédien qui m'a raconté un peu comment il galérait à trouver un travail à Pékin, comme il n'y avait pas de travail pour les comédiens à ce moment-là. Et donc, il voulait trouver un travail. Finalement, il a trouvé un travail à temps partiel dans une supérette. Et donc, son expérience m'avait assez ému. Et puis je me disais à ce moment-là que ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, tous ces amis-là. Et donc voilà, le lendemain, j'ai commencé à penser à ce projet de contacter ces gens de théâtre que je connais pour commencer. Et donc voilà, de demander à les voir, d'aller filmer et de me raconter un peu comment ils ont vécu toute cette période de confinement et après le confinement, leur quotidien.
Et la première question que vous leur posez à chaque fois à tous ces gens de théâtre pour prendre de leurs nouvelles, c'est quand est-ce que la première fois tu as pris conscience de cette épidémie, de la présence de ce virus? Vous, c'était quand?
C'était le 19 janvier à Shanghai. J'étais dans une voiture en train de partir, de rentrer à Pékin. Et à ce moment-là, j'avais reçu beaucoup de messages des amis qui me parlaient de ce virus qui ressemblerait au SRAS que nous avions connu avant. Et donc, on se disait qu'il fallait absolument acheter des masques.
Et c'était votre dernière fois au théâtre?
Oui, c'était ma dernière fois au théâtre à Shanghai.
Est-ce qu'il y a eu déjà des représentations, des répétitions? Comment ça se passe au théâtre à Pékin en ce moment?
Au théâtre à Pékin en ce moment, il y a eu quelques représentations, très très peu. On a depuis 2 semaines l'autorisation d'ouvrir les salles avec une jauge de 50%. Et avant ça, depuis le début de ce mois, c'était avec une jauge de 30%. Donc du coup, quand je suis allé voir mes amis de théâtre, il y avait aussi des gens, des directeurs ou des directrices de théâtre. Et je leur posais cette question-là par rapport à quand ils comptaient ouvrir leur théâtre. Et pour les théâtres privés, en tout cas, c'était assez difficile d'imaginer une ouverture rapide. Parce qu'avec une jauge de 30%, voire de 50%, ils ouvraient un peu leur théâtre à perte. Et donc, c'était assez difficile pour eux d'imaginer une ouverture prochaine.
Et cette petite série d'interviews que vous faites là depuis juillet avec les amis de théâtre en Chine, ça a pour titre un dicton chinois. C'est quoi?
Oui. Alors... Ça s'appelle en chinois « yipai ti he ». Yipai ti he, ça veut dire littéralement se donner une claque de main et s'unir. Et puis, je trouvais ça assez beau, en fait, parce que pendant très longtemps, on pouvait pas se toucher, on pouvait rien faire. Et donc là, oser au moins se donner une claque de la main et oser se toucher, déjà pour moi, ça signifiait beaucoup. Et puis voilà, c'est aussi par rapport à ce que ça dit, ce dicton. Et je pense que c'est aussi le moment où, dans ce genre de moments difficiles aussi, que nous avons envie de nous unir, quoi.
Et pour se taper dans les mains, pour s'unir et passer le relais en studio à Wajdi Mouawad et aux deux jeunes comédiennes qui nous accompagnent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous souhaiter en chinois quelque chose de bon pour la saison qui vient, Stéphane Chao?
Quelque chose de bon pour la saison qui vient.
Qui s'ouvre. C'est pas simple.
Non, c'est pas simple. Très franchement, c'est pas simple.
Alors bon courage en chinois.
希望大家在后面的这段非常怎么说，希望大家一起加油。
C'était bon courage, ça?
À peu près. Bon courage. Enfin, qu'on se donne du bon courage mutuellement, tous ensemble.
Wajdi Mouawad, on a même du courage qui arrive de Pékin pour commencer cette saison. C'est pas mal.
C'est formidable.
Est-ce que vous pourriez décrire l'émotion que vous avez eue, ou en tout cas la sensation, le dernier jour au théâtre quand il a fallu partir, avant la fin au printemps, et puis le premier jour où vous êtes revenu avant l'été?
C'était une triple situation. Il se trouve que à la fois nous présentions deux spectacles, un spectacle de Yasmina Reza qui venait d'ouvrir dans la petite salle et un spectacle dans la grande salle de Peter Hanke qui venait aussi d'ouvrir une semaine avant. Les salles étaient pleines. Et il se trouve que je jouais moi-même en tournée. Je me préparais à jouer la première représentation d'une série au TNS, au Théâtre National de Strasbourg, d'une pièce que j'avais écrite, mise en scène, et dans laquelle je jouais, qui s'appelle « Inflammation du verbe vivre ». Et les trois se sont arrêtés d'un coup. Le sentiment... Moi, je deviens très froid dans des situations comme ça, en fait. C'est ça. Je deviens très, très froid. C'est pour ça que j'ai un peu de difficulté à nommer. Dans des situations où le choc est important, je ne ressens plus rien. Je deviens complètement, comme un morceau de bois. Je ne ressens rien. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je ne ressentais rien, mais j'étais là où je pouvais ressentir un tout petit peu plus, presque par empathie. C'était essentiellement beaucoup le chagrin des comédiens de La Colline. Qui ont dû s'arrêter du jour au lendemain, presque dans quelque chose qui était impossible. C'est impossible d'arrêter des représentations. Et le fait que le lendemain, au théâtre, les décors étaient toujours là, mais il n'y avait plus personne. Il y avait quelque chose de l'ordre des ruines. C'était extrêmement émouvant d'avoir les sentinelles, ces lumières qu'on allume pour veiller sur l'âme des personnages, allumées. Et sentir qu'elles vont rester allumées très très longtemps dans des décors vides où erraient encore les personnages et où résonnait encore la voix des comédiens qui venaient de jouer et qui ne jouaient plus, le théâtre vide. C'était là, il y avait quelque chose de l'ordre de la chute. Et puis, au déconfinement, la nécessité d'ouvrir le plus vite possible. Pour moi, c'était très important, le plus vite possible, le plus vite possible. Et donc, dès que nous avons pu le faire, nous avons organisé une soirée de rencontre entre des acteurs et des spectateurs à travers un chœur que j'avais écrit et mis en scène avec un groupe de jeunes comédiens qui sont âgés entre 25 et 30 ans, qui étaient des comédiens avec lesquels j'étais en train de travailler au moment où on a arrêté. Et la première chose qui s'est passée, c'est qu'il n'y avait strictement rien sur le plateau. Le plateau était totalement vide. On a ouvert le rideau. Le public a vu le plateau de La Colline comme il ne l'a jamais vu, c'est-à-dire totalement vide, avec les lumières de service allumées. Donc l'espace vide. Et nous sommes arrivés du fond de cet espace vide en ouvrant une porte. Nous étions une trentaine à marcher rapidement en allant vers les spectateurs qui se sont instinctivement mis à applaudir. On ne sait pas quoi, mais probablement les retrouvailles. Et les acteurs, instinctivement, se sont mis aussi à applaudir les spectateurs, probablement parce qu'à ce moment-là, se retrouver dans un lieu de poésie relevait d'une chose qu'on ne pouvait même pas imaginer, même en théorie. C'est-à-dire, trois jours avant, quand on se disait « Ah si, ça va être bien quand on va se retrouver », là, physiquement, on découvrait vraiment à quel point c'était extraordinaire de se retrouver, de retrouver les corps, de retrouver les visages, de se retrouver. Et là, j'ai ressenti une très, très grande émotion, contrairement au moment où on a arrêté, où là, vraiment, je n'ai rien ressenti.
Kelly et Lorelai, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand il a fallu partir du théâtre et que le lendemain, en effet, on ne pouvait plus les retourner? Et puis, l'ironie fait que votre spectacle s'appelle Proche et qu'on n'a plus du tout pu l'être au printemps et que vous n'avez pas pu le jouer.
Bah, moi, c'est un peu la même chose dans ce sens. Après, il y a un truc qui diffère quand même, c'est qu'on n'y est pas tous les jours. On y est souvent, mais on n'y vit pas non plus.
Mais c'était quand même l'attente du premier spectacle.
Mais en plus de ça, en fait, la dernière fois qu'on s'est vus tous, c'était pour une réunion, pour préparer le 20 mars. Parce que le 20 mars, il y avait en fait la représentation dans le hall de notre prologue, donc de la pièce. Donc on était tous comme ça et on savait pas trop si ça pouvait le faire. Il y en avait qui disaient que ouais, enfin ça se fait et tout. Et en fait, c'est tombé en plein milieu. On est parti du théâtre, on se dit au revoir, voilà, à la semaine prochaine. Il y a une semaine prochaine, mais sur Zoom. Voilà, c'est pas la même chose. Et moi, de mon côté, quand on s'est retrouvés, et on a fait un petit tour, on s'est retrouvés donc masqués. On a fait les répétitions masquées fin juin, début juillet. Et on a fait donc un petit tour et on était tous à la fois soulagés de recommencer. Parce que même, et à titre personnel, ça m'a pas manqué tout de suite en fait d'être sur le plateau, d'être au Théâtre Louis-Aragon du coup, et d'être avec la troupe et cette maison-là. Mais quand on y retourne en fait, bah ça fait du bien. Et on était tous à la fois stressés de recommencer, mais pressés, excitée et anxieuse un peu de savoir comment ça allait se passer la suite.
Et Proche, c'est un montage de textes que vous avez fait, de Falk Richter, de Ernst Toller, entre autres. Et au début, vous me disiez que ça s'appelait Urgent, Attention, Fragile. Pourquoi ça a changé?
En fait, à l'origine, c'était le projet entier qui s'appelait Urgent, Attention, Fragile, donc comprenant la création. Et on avait copié le même nom. Et en fait, en répétant, en jouant ça entre nous, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose qui nous dérangeait, que l'urgent était bien utilisé, parce qu'on parle quand même de l'urgence dans laquelle on vit constamment, mais que « attention fragile » était là en fait au début pour parler de la jeunesse et de est-ce qu'on s'en sent les épaules d'affronter ce monde-là. Et en fait, il s'est avéré que c'est parce qu'on est ressorti de cette expérience et de ce travail-là. Et donc, on a réfléchi à un nouveau titre. Et en fait, « Proche », c'est un des intermèdes donc, de Falk Richter qui s'appelle « Proche ». C'est un des premiers qu'on a travaillé. Et en fait, c'est cette histoire qu'on a vue dans Le Jour Parfait de « On est proche, pas proche, mais proche », c'est quelque chose qui revient tout au long du spectacle. Et de comment est-ce qu'on est proche dans des situations, le confinement ou dans la pièce. Et c'est quelque chose qui fait vachement écho entre la pièce de 1920, la pièce de 2010 et ce qu'on vit maintenant.
Vous étiez plus proche que fragile.
Voilà.
Est-ce que vous avez écouté un peu le journal de confinement de Wajdi Mouawad?
Un petit peu. Pas tout.
Bah écoutez un tout petit peu du début.
Qu'est-ce qui est sublime et qui meurt? Qu'est-ce qui s'en va? Quel esprit de la forêt déserte le monde? De quoi dois-je dès à présent faire le deuil? L'insouciance. Il y a 2 semaines, je ne peux pas dire que je me sentais insouciant. Climat, incendie, violence envers les femmes, libéralisme. Si le monde que je quitte par le confinement était celui-là, pourquoi désirer la fin de ce confinement au plus vite? Pour retrouver quel monde? J'ouvre les yeux ce matin après une errance, une nuit durant dans le bois de Vincennes. Qu'est-ce qui nous arrive?
Ouais, je dis moi, ouais, on parlait de proximité, de lien à réinventer. Et vous, votre façon finalement de retrouver la présence, de faire preuve de présence, comme vous dites, ça a été par la voix. Pourquoi c'est par la voix que ça a été une évidence de faire le lien? Parce qu'il y a eu beaucoup de captations, de vidéos.
Lorsque Thésée rentre dans le labyrinthe pour aller affronter le Minotaure, Ariane lui donne un fil. Elle lui dit, garde ce fil, sinon tu n'arriveras pas à sortir. Donc, la voix peut être un fil. D'ailleurs, dans les grandes expériences chamaniques, le chaman chante tout le temps parce que la personne qui entre en transe, si elle n'a pas la voix du chaman, elle se perd dans les méandres de sa psyché. Et la voix du chaman devient vraiment le fil à l'intérieur du labyrinthe. Il y avait dans ce confinement quelque chose qui relevait de l'entrée dans un labyrinthe qui semblait pourtant un labyrinthe sans parois, sans rien, sans chemin, sans impasse, tout semblait, puisqu'on regardait par la fenêtre, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'immeuble détruit, il n'y avait pas de sniper, tout allait très bien, on ne voyait rien, c'était comme être dans un micro-ondes, on était bombardé par des ondes, mais qui a jamais vu une onde? Et nous commencions à cuire, mais sans avoir le feu. Donc il y avait quelque chose de complètement virtuel dans ce confinement, puisque nous ne pouvions pas sortir, mais à regarder dehors, tout allait très bien. Donc un drôle de labyrinthe, un labyrinthe en forme de four micro-ondes qui nous cuisait de l'intérieur. Et il fallait, je me disais, de quelle manière contribuer. Il y avait des discours, enfin pas discours, il y avait des langages, il y avait le langage politique, il y avait le langage sanitaire, il y avait le langage sociologique, il y avait le langage médiatique. Tous ces langages étaient très présents dans la sphère. Et je me disais, moi, pour ma part, je sais que, mais c'est très personnel, j'ai besoin d'un langage aussi qui soit poétique pour arriver, pas de manière conflictuelle, pas parce que je le trouve plus important, mais parce que j'en ai aussi besoin. Et je me disais que dans cet endroit-là, ce que je pouvais faire de mieux, c'était contribuer en mettant par la voix la possibilité que des gens puissent avoir accès à un langage poétique en plus des autres. Et je suis rentré dans l'écriture de ce journal, qui n'est pas pour moi une chose inhabituelle, puisque j'écris, pas un journal, j'appelle ça plus un terrain vague depuis l'âge de 15 ans, donc écrire tous les jours, mais très habituel. Mais ce qui a été vraiment, et je reviens un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la notion de proche, je me suis rendu compte que c'était en me rapprochant du présent. Quand je dis du présent, c'est-à-dire, c'est ce qui a été pour moi la grande découverte pendant ce confinement, c'était que tout à coup, sortir et me rapprocher très physiquement, hein, très concrètement, de la fourmilière qu'il y avait en bas de chez moi. Je trouve une fourmilière. Je me suis mis à regarder tous les jours cette fourmilière, à essayer de faire connaissance avec les fourmis, à les compter, à essayer de voir comment ils vont, à quelle heure elles se déplacent, etc. Et ça, c'était être proche. Et étrangement, en étant dans cette proximité d'une chose tout à fait réelle, ça m'a permis d'être aussi proche de mes amis d'une façon plus, on va dire, spirituelle, même pas virtuelle, spirituelle, c'est-à-dire penser à eux. Penser à eux comme le fait Peter Handke dans Mon année dans la baie de personne, où de son jardin, il pense à ses amis qui voyagent partout dans le monde, et par l'écriture, il les rejoint. Et là, la puissance poétique est devenue très très grande, parce que par la poésie, on peut rejoindre l'autre. Le rejoindre, ça veut dire le rejoindre vraiment, le rejoindre comme avoir l'impression de marcher à ses côtés. Et c'était ce que j'avais envie aussi de mettre à disposition des personnes qui pouvaient écouter ce journal. Ouvrir ces fenêtres de possibles qui sont, on va dire, la puissance de la pensée et de l'esprit humain qui peut se projeter et trouver une proximité, un contact au-delà du fait réel. On va dire, s'il advenait qu'une des étoiles de la grande ours disparaissait, que feraient les autres étoiles pour compenser sa disparition? Et je suis sûr qu'elles feraient quelque chose, les autres étoiles, et on aurait une nouvelle constellation. Il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là.
Et Kelly et Lorelai, votre groupe, ça s'appelle La Belle Jeunesse. Qu'est-ce qui vous rend proche les uns des autres? Qu'est-ce que vous avez en commun? Et vous parlez beaucoup d'urgence, d'état d'urgence, même avant tout ce qui s'est passé là récemment, même avant ce printemps. Beaucoup d'états d'urgence depuis votre enfance dont vous avez envie de parler.
Ce qui nous rapproche au tout début, quand on a commencé à se connaître et à former le groupe qu'on est maintenant, on a directement parlé donc, de nos urgences et de nos peurs, et directement ça nous a rapprochés. Et on s'est rendu compte que on avait tous plus ou moins les mêmes appréhensions quant au monde dans lequel on vit, et c'est ça, la première chose, je pense, qui nous a rapprochés dans ce qu'on voulait dire.
C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé par faire un travail, en fait, on a rassemblé un peu les visions des choses de chacun, ce que chacun avait à dire. Et c'est là dont on s'est rendu compte, du coup, qu'on vivait donc dans un monde d'urgence. Les trois qui se sont dégagés pour nous, c'était l'urgence politique, l'urgence sociale et écologique. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a, comme Kelly le disait, on a travaillé d'abord par rapport à ça. Et pour en revenir donc au confinement, à la crise sanitaire qui en rajoutait encore une, c'est quelque chose qui a vraiment mis en exergue ce qu'on avait à dire déjà et ce qu'on disait, et quelque chose qui est venu percuter en fait notre projet et qui est venu le renforcer.
On va écouter la voix de Jean-Louis Barrault au tournant de 1968. Alors c'est une révolution qui est autrement plus joyeuse que celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais c'est quand même un gros changement dans la société et qui a eu un impact sur les poètes et sur l'écriture.
Il faut reconnaître que à notre époque, la réalité dépasse la fiction, que nous sommes en pleine mutation de civilisation, que les poètes actuels sont déroutés, nous sommes à la fin d'un cycle, à l'orée d'un nouveau cycle, les poètes sont déséquilibrés, et déséquilibrés non pas par eux-mêmes, mais par les événements qui se présentent à eux, et parfois, ils peuvent très bien ne pas saisir le sujet qui pourrait être transposé en activité poétique, en action poétique. Vous ne voudrez pas?
Oui, mais ce qu'on attend, c'est une renaissance. Pourquoi est-ce une renaissance?
Ah ben,
c'est peut-être l'arrivée dans le néant.
Nous ne sommes pas Geneviève Tabouy. Pour l'instant, on constate ce qu'il y a en ce moment. Nous ne sommes pas prophétesses, n'est-ce pas?
Mais
la renaissance, elle est là, la renaissance. Que ceux qui ont 18 ans se lèvent, la voilà la renaissance, n'est-ce pas? Et nous sommes autant shakespeariens entre chien et loup, entre la nuit et l'aube, entre la renaissance du jour, à la veille d'une renaissance, où on a encore l'écho d'une chose qui existait et qui n'est plus, et l'attente d'une chose qui n'est pas encore. Et on est là, tout seul, et on s'enfonce doucement avec le temps qui nous effrite. C'est un point extraordinaire d'acupuncture humaine.
Ouais, je dis moi, Wad, Jean-Louis Barrault parlait de la façon dont ça déséquilibre les poètes. Est-ce que ça déséquilibre l'écriture parfois, c'est ce qu'on vient de vivre? Est-ce que ça peut couper la parole?
Ça peut, oui, dépendamment du poète. Moi, ce que je ressens, c'est le danger d'événements comme ceux-là, qui agissent comme éléments d'attraction, presque comme des trous noirs, qui aspirent à eux, même la lumière, la force de la lumière. C'est-à-dire, le danger, c'est de penser que ce qui nous habite depuis longtemps, les profondeurs de ce qui nous habite, tout à coup n'ont plus de sens. Parce que voici un événement terrible et qu'il faudrait parler de ça. Et ça, c'est dangereux. Trahir qui on est. Parce que on se raconte que maintenant, ah mon Dieu, mais là, c'est une. Moi, ça me fait du bien d'écouter Jean-Louis Barrault, parce que je me dis, ah oui, bah, au fond, ce qui nous arrive n'est pas si unique dans l'histoire de l'humanité, et il faut tenir bon. Il faut tenir bon, et puis faire preuve de très grande humilité, accepter que des événements comme ceux-là dévorent tout, ils dévorent la fiction, ils dévorent tout. On peut pas les raconter là. On peut pas. On a besoin encore de l'éco-retour de ça. C'est comme les chauves-souris. Elles lancent un cri et ensuite elles ont besoin de se taire pour entendre l'écho de leur cri pour pouvoir voir où elles vont. Si elles ne se donnent pas le temps d'entendre l'éco-retour, elles ne voient rien. Et on doit attendre l'écho et ça peut prendre des décennies avant que l'écho revienne. Donc ce qui est important, c'est de se laisser traverser. C'est de se laisser traverser par ce que l'on ressent, par ce que l'on perçoit. En faire une matière, mais au profit de ce qui nous habite profondément. Ne pas trahir ce qui nous meut depuis le début de l'écriture. Et le danger, c'est cette trahison-là par la conviction que, allez, il faut être prophète, il faut être sauveur, il faut dire le monde, etc. Ça, c'est des très, très grands dangers, quoi. Ça, franchement, je dois tous les jours me dire, tu restes dans ta ligne.
On parlait de la voix et de la façon de rester ensemble et faire le lien. On va écouter une autre voix, celle de Clara Isée, qui, pendant le confinement, pendant le printemps, a chanté « Notre océan ». Et on va la laisser entrer en studio pour nous en parler. Clara Isée, je crois que vous avez écrit Notre océan pour le printemps de Bourges imaginaire, et vous parliez de cette chanson comme un espace protégé pour se retrouver. Pourquoi ? C'était quoi exactement cet espace ?
C'était la musique, d'abord. C'est que ce confinement pour nous, ça a été un peu particulier, enfin comme plein d'autres gens, mais c'est vrai que c'est notre première tournée qui a été... annulé au moment même où ça allait commencer.
Et du coup, comme c'est pour vrai la belle jeunesse. Ouais. C'est leur premier spectacle.
Exactement. Mais du coup, c'est vrai que de pouvoir composer et le partager, même si c'est sur les réseaux, même si ça n'a rien à voir avec un vrai live et un public qu'on sent physiquement, mais c'était un espace puissant de retrouvailles spirituelles avec les autres, je crois.
Et ça s'appelle Notre océan.
Oui.
Vous êtes accompagnée par Camille.
Camille Albacha, au clavier. Je suis Clara Isée. Nous sommes en studio avec Wajdi Mouawad, Kelly Cheng et Lorelai Morisseau. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charon.
Veux-tu chercher sous le calme apparent ? Voudrais-tu aussi accélérer le temps ? Que fais-tu face à l'idée du néant qui lentement s'immisce dans nos rangs, plonge et sent la violence du courant qui soulève, soulève l'océan. Entends-tu comme il est effrayant ce silence qui nous déchire en dedans? Crois-tu que tu es seul? Regarde derrière toi. La vague dans sa gueule nous emportera. Si tu crois aussi que tu es seul, regarde autour de toi. La vague qui t'accueille nous soulèvera. Veux-tu chercher sous le calme apparent? Voudrais-tu aussi accélérer le temps? Que fais-tu face à l'idée du néant qui lentement s'immisce dans nos rangs, plonge et sent la violence du courant qui soulève, soulève l'océan? Entends-tu comme il est effrayant ce silence qui nous déchire en dedans? Entends-tu comme il est puissant ce silence qui nous déchire en dedans? Crois-tu que tu es seul? Regarde derrière toi. La vague dans sa gueule nous emportera. Si tu crois aussi que tu es seul, regarde autour de toi. Nous sommes pris dans la vague qui t'emportera. Crois-tu que tu es seul? Regarde autour de toi. La vague dans sa gueule nous soulèvera. Si tu crois aussi que tu es seul, regarde autour de toi. La vague pâle linceule nous soulèvera. La vague pâle linceule nous soulèvera.
J'ai envoyé dans plusieurs endroits du monde une question: comment va se réinventer le théâtre chez vous cette année? Et j'ai reçu des messages de Ouagadougou, de Bologne et de Tel Aviv.
Entend Aristide Tanagda, Ntumta, Burkina Faso. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis Aristide Tanagda, je suis burkinabé, j'habite à Ouagadougou, je suis auteur, metteur en scène, comédien, directeur d'Eric Réatral, un des plus grands festivals de théâtre de l'Afrique de l'Ouest. Oui, la vie culturelle, la vie théâtrale a repris tout doucement ici au Burkina Faso, à Ouagadougou ici, parce qu'à un certain moment, les mesures d'interdiction ont été allégées. Le gouvernement a allégé les mesures en nous invitant tout de même à être prudents et à observer les gestes barrières. Donc on a comme un début de soulagement et d'espoir. Et donc, voilà, la vie théâtrale reprend tout doucement. Je suis moi-même en train de préparer la 11e édition d'Eric Réatral. Donc, on essaiera de prendre soin de la vie à travers le théâtre, parce que c'est ça aussi le théâtre. Le théâtre, pour nous, c'est prendre soin de la vie, c'est propager la beauté un peu partout. Et donc projeter de la lumière sur les ombres qui nous pourchassent. Et donc voilà, on essaiera avec beaucoup de courage de nous dresser contre ces ombres-là, nous dresser contre cette pandémie, en accouchant de la beauté, en nous réunissant malgré tout. Voilà, parce qu'il faut, coûte que coûte, nous réunir, être ensemble pour rêver d'un horizon commun.
Buonasera, sono Claudio Longhi, il direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Bonsoir, je m'appelle Claudio Longhi. Je suis le directeur de Emilia-Romagna Teatro Fondazione, l'un des six théâtres nationaux italiens. Chiamo da Bologna, Italia. Je vous appelle de Bologne, Italie. Ici chez nous, le théâtre a recommencé à présenter les spectacles au public à partir du 15 juin. Vous me demandez chez vous comment on va s'inventer le théâtre cette année. Je ne peux que répondre pour l'Italie et pour mon point de vue particulier. Je crois que dans le prochain mois, il faudra s'engager dans l'ouverture d'un débat sur la fonction du théâtre, surtout sur la fonction publique du théâtre. S'interroger donc sur la notion de théâtre service public. Je crois qu'il faudra défendre l'idée d'Europe en employant le théâtre comme lieu de discussion. Le théâtre, c'est l'un des piliers d'une certaine idée d'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Je crois que dans le prochain mois, il faudra imprimer un nouvel élan à la dramaturgie. Je ne crois pas qu'il faudra présenter des pièces Covid, mais il faudra s'interroger sur la transformation de peur, de désir, de curiosité des spectateurs. La pandémie a changé le monde et le théâtre doit représenter et réfléchir sur ces changements de perspective. Il faudra finalement donner un nouvel élan à la fonction politique du théâtre pour imaginer le futur, pour projeter un futur viable où l'homme se prend finalement soin de l'humanité et du planète. Je m'excuse pour mon français approximatif. Bonsoir.
Shalom, France Culture, Corimli Galovitz, Vani Nitzet Peyafo, et Patatron Chely, Chani Kamti. Bonjour tout le monde, je m'appelle Galovitz et je suis à Jaffa, en Israël, dans le théâtre que j'avais fondé il y a 6 ans. Et voilà, la question qui se pose maintenant, c'est comment réinventer le théâtre, ou plutôt réinventer la proximité, parce que dans mon théâtre, on se trouve entre nous 60 jeunes en condition de risque, et en plus, ils viennent de communautés différentes, ce qui n'est pas toujours très acceptable en Israël, donc la communauté juive et la communauté arabe. Et ils se retrouvent tous les jours pour faire du théâtre, 5 fois par semaine. Et ils se rapprochent, ils se parlent, ils se créent ensemble. Et là, du coup, on se trouve avec des mesures qui nous obligent de porter des masques, de garder la distance sociale. Et comment on réinvente la proximité, je crois que ben, on va vers l'essentiel. On sort à l'extérieur, on parle aux gens dans le quartier. On va essayer de parler aux citoyens, de faire de plus en plus de choses à l'extérieur et de se poser des questions, de rendre chaque jour plus curieuse en se demandant autour comment on fait. Et je trouve ça curieux et je crois que je suis plutôt triste mais aussi optimiste. C'est bizarre, les deux.
Est-ce que vous êtes aussi les deux, Wajdi Mouawad, Kelly, Lorelai, triste et optimiste?
Je pense qu'on aimerait être optimiste pour la suite et parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut porter, c'est ce qu'on a envie de faire entendre. Mais à la fois, et la situation, la situation dans laquelle ça se fait, je pense à ce que je disais Wajdi Mouawad tout à l'heure, c'est que moi, la première fois que je suis re-rentrée dans une salle de spectacle, c'était à la Colline, pour voir Littoral. Et on était en groupe, on ne pouvait pas être en groupe, donc on était séparés. On était masqués et effectivement, quand les comédiens sont entrés, on s'est mis à applaudir aussi parce que ça faisait du bien et que c'était beau. Mais voilà, la question, c'est de savoir si, enfin, quand est-ce que, et comment y croire encore, ça rentre dans ça. C'est quand est-ce que on va pouvoir faire un peu sans. Et je pense qu'il va falloir que ça dure encore un bout de temps comme ça. Et mais on fait avec.
Ça rejoint ce que Lorelai vient de dire. On a envie d'être optimiste, on a besoin d'y croire. Mais ce qu'on vit, et on s'en rend compte tous les jours en fait, c'est que C'est compliqué.
Moi, je dis moi, ouais.
Oui, ben moi, je suis, je suis tragiquement optimiste. Quand je dis tragiquement optimiste, c'est que je sais que je suis convaincu, absolument convaincu, que je dis l'humanité parce que l'humanité vit tout ça ensemble, hein, le confinement, tout c'est bon. Tout ça va, on va traverser tout ça, mais de manière, ça va être tragique. Et il y aura des moments, à l'échelle de l'histoire, on se rend compte que on est passé à travers des choses innommables, absolument innommables, et nous sommes aujourd'hui là, aujourd'hui ici, et puis dans 100 ans, il y en aura d'autres. Donc il y a quelque chose qui nous oblige à l'optimisme, ça nous oblige, on est obligé d'être optimiste. Mais on a ce sentiment que ça se fera douloureusement, en fait, ça va se faire... violemment, moi je me sens complètement tiraillé. C'est très étrange pour moi de me retrouver autour d'une table pour parler du déconfinement et du confinement parce que l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth le mois dernier a tout effacé, je vais dire. Ça a été un moment, le cataclysme qui a eu à Beyrouth a rendu le confinement et le Covid et le virus un truc un peu abstrait et bizarre dans ma vie. Et c'est pour dire comment les événements sont d'une violence folle. On a l'impression de dragons monstrueux qui se dévorent entre eux. L'explosion de Beyrouth étant un dragon, le Covid étant un autre dragon. Alors, ils se sont entre-dévorés. Voici, il y en a un qui supplante l'autre pendant une semaine dans l'actualité. Voici la Biélorussie qui débarque, il va y avoir les élections américaines qui viennent. Les pages se tournent à une vitesse tellement folle que nous, on ne peut pas suivre. On est comme des petites fourmis sur une route qui va se faire goudronner. On voit arriver la goudronneuse et on nous demande « Alors, t'es optimiste ?» je vais me faire écraser par la machine qui goudronne, c'est sûr. C'est sûr, je vais me faire écraser. Mais parfois, à être si petit qu'une fourmi, parfois, étrangement, le goudron passe et on n'est pas écrasé. Alors, il y a quelque chose un peu de cet optimisme tragique là.
Et vous parliez d'ailleurs, Wajdi Mouawad, de la tragédie de l'explosion du 4 août à Beyrouth comme d'une tragédie dont on n'a pas trouvé les mots pour la raconter encore dans une tribune que vous avez écrite pour Le Monde. Et c'était important pour nous, on a entendu des voix de différents pays ce soir, c'était important pour nous de prendre des nouvelles justement de Beyrouth et du Liban. On entend l'air de l'hymne du Liban et c'est un extrait de Evans, une pièce de la compagnie Zoukak à Beyrouth, où trois femmes sont de la mémoire intime et collective de la guerre civile. Zoukak, c'est une compagnie qui existe depuis presque 15 ans maintenant, un collectif créé après la guerre de 2006, qui veut écrire l'histoire qui manque justement dans le pays. Et leur théâtre est toujours citoyen, poétique, ils travaillent la réparation des traumatismes par les mots et la scène. Omar Abiazar, vous avez accepté de nous donner des nouvelles de vous, de Beyrouth, du Liban. On a envie de vous demander comment ça va. Je sais que votre studio que vous aviez depuis 4 ans avec Zouka, qui était dans une zone près du port, mais que la compagnie était heureusement partie avant l'explosion du 4 août.
Oui, bonsoir Aurélie. Le mot « heureusement », on l'a échappé belle, et un mot sur toutes les bouches aujourd'hui. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans Beyrouth, il nous dit, un survivant disons, il nous dit « je l'ai échappé belle ». Parce que, comme vous l'imaginez dans une ville, tout le monde est proche d'une vitre à un moment ou à un autre. Et la mort est venue par les fenêtres ces derniers jours durant cette explosion et chaque personne qui était près d'une fenêtre n'a malheureusement pas échappé belle. Et si, pour reprendre un peu ce que j'ai entendu, les dernières brides de la conversation, oui, aujourd'hui l'optimisme à Beyrouth n'est pas une carte, s'il faut dire. Et on parle beaucoup de la résilience au Liban, mais je crois que maintenant au Liban, on veut se débarrasser de cette identité de résilience. Et on a vraiment envie de laisser tomber les bras. Et peut-être que on a cette sensation que peut-être si on laisse tomber et on joue le cadavre sur les décombres, quelque chose de mieux pourrait arriver. Et cela loin des allégories.
Et quand on parlait ensemble, Omar, de ce qui venait de se passer en août, vous me disiez que la dernière représentation au théâtre, c'était en octobre dernier. Parce qu'en fait, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Il y a eu cette révolution et ces manifestations de la jeunesse dans la rue à l'automne dernier. Et puis ensuite, il y a eu une crise économique, le Covid qui est arrivé, et puis cette tragédie en août. Vous étiez en train de répéter un spectacle avec des jeunes. On a beaucoup parlé de la jeunesse ce soir avec des jeunes. C'était le dernier spectacle, je crois, que vous faisiez ensemble. Comment vous avez continué à être ensemble, à être avec eux, à faire entendre vos voix cette dernière année, même avant même ce mois d'août?
En fait, le dernier spectacle qu'on a joué dans le studio, ça a été un spectacle de la compagnie qui était sur l'amour. Parce que à ce moment-là, à l'heure des révolutions, on était plein d'espoir. Et on avait joué ce spectacle et on avait décidé de fermer le studio parce qu'on s'était dit l'heure maintenant n'était plus au théâtre mais à la rue. Et que nous ne devons plus être dans les salles mais sur les places. Et entre-temps, il y a eu la crise économique en plus et le Covid qui est venu fermer définitivement les portes du studio jusqu'à ce qu'il explose le mois dernier. Mais entre-temps, nous étions en train de travailler avec un groupe de jeunes en ligne. Nous avions commencé avant le Covid. Et c'est un groupe de jeunes qui n'a pas forcément vu une pièce de théâtre dans sa vie, mais qui s'était donné volontiers à cet atelier. Et quand nous avons fermé les portes du théâtre, nous avons continué en ligne. Et bizarrement, bien avant l'explosion, les jeunes faisaient des propositions comme des appels d'un autre monde, comme s'ils parlaient d'une vie dans le delà, comme s'il y avait déjà une prémonition ou un sentiment de quelque chose de tragique allait se passer. Et ce sentiment de tragique dont parlait Wajdi, qui est une sorte de thanatos quelque part, d'eros, on le sentait bien avant, on le sentait déjà depuis la révolution. L'espoir était mélangé à ce sentiment de tragique. Et Beyrouth et le Liban et le Moyen-Orient et malheureusement peut-être disons tout le monde maintenant, on sent dans l'air cette fatalité de plus rien ne peut plus aller bien comme avant. Ou avant n'allait pas bien mais on ne le savait pas. Et c'est ce sentiment qu'on a dans Beyrouth aujourd'hui.
Et j'imagine qu'aujourd'hui c'est tellement proche. Ce qui vient de se passer, c'est ce qu'on se disait avec Wajdi Mouawad, il faut du temps aussi pour penser tout ça, pour se remettre à travailler. Comment vous voyez les prochains mois? J'imagine qu'il faut déjà voir comment on répare un studio, comment on fait pour se remettre en marche et comment on fait pour comprendre la nouvelle société dans laquelle on vit, où beaucoup de gens n'ont plus de maison, où tout le monde a des cicatrices, comme vous le disiez.
L'heure est au deuil. On a toujours eu très peu de temps au Liban ou au Moyen-Orient pour pleurer nos morts. Et cette fois-ci, on a vraiment, nous, dans la compagnie, l'impression qu'on ne veut pas attendre 25 ans, comme dans la pièce que vous avez entendue, pour pleurer nos morts. On a envie de prendre le temps du deuil pour comprendre ce qui nous est arrivé. Parce que pour la première fois au Liban, la communauté qui a été attaquée par cette explosion, les victimes de cette communauté, ne sont pas une communauté politisée, ne sont pas une communauté qui est peinte par une religion ou une confession. C'est la communauté des artistes, des théâtreux, des gens de la culture. Et aujourd'hui, cette communauté, c'est elle dont on ramasse les corps dans les rues et sous les décombres. Et pour une fois, notre communauté, cette communauté, a envie de pleurer ses morts. Bien sûr, on a envie de reconstruire. On ne veut pas reconstruire comme on a reconstruit après la guerre civile, une reconstruction faite d'illusions, une reconstruction faite pour le marché. Mais on a envie de reconstruire sur nos morts, et non pas en ignorant nos morts, en se disant que rien ne s'est passé. On veut tracer un fil d'or sur cette fracture dans l'histoire du Liban, et en faire la nouvelle base de notre société, et non pas l'ignorer. réécrire l'histoire à partir d'ici, refaire sortir les morts, les enterrer et faire tous les rituels théâtrales qu'on leur doit.
Et Omar Abiazar, qui peut vous aider? Qui peut aider à la reconstruction, à la suite? D'où viennent les aides que vous pouvez recevoir?
Le problème avec les aides ou avec l'aide, c'est, en général, c'est ce soit l'intérêt qui vient derrière ces aides, soit la condescendance humaniste qui vient derrière ces aides. Nous, on a besoin, en ce moment, de nous laisser faire et juste qu'on accepte que ce qui vient de se passer, on en est tous responsables, que ce soit nous en tant que Libanais ou que ce soit la communauté internationale. Pour en arriver là au Liban, c'est la même chose que pour en arriver là aux États-Unis, c'est la même chose que pour en arriver là en Biélorussie ou en toute le, dans toute l'Europe. La planète ne va pas bien. Laissons les gens qui n'ont aucun intérêt politique, aucun intérêt mercantile dans les villes, bâtir leur propre ville. Laissons-les faire leur propre société et n'imposons pas aux gens des valeurs ou leur dire comment et quoi faire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
C'est très clair. Merci beaucoup, Omar Abiazar. On vous souhaite bon courage. Merci pour avoir accepté de nous parler.
Merci pour ce temps.
Merci. Je voulais finir, on est donc avec Wajdi Mouawad dans le studio. Et vous avez écrit le 12 avril dernier, Wajdi, une lettre à votre fils à l'invitation d'Augustin Trapenard sur France Inter. Et c'est un petit extrait, c'est la fin de la lettre. C'est dans l'idée une lettre qu'il lira plus tard, quand il sera plus grand. Et je me disais que c'était bien de finir avec cette adresse-là.
Mais si ton temps est pire que celui de ton enfance, si en ce moment où tu me lis, tu es dans la crainte à ton tour, je voudrais par cette lettre te donner un peu de ce courage dont parfois j'ai manqué et, repensant à ce que nous nous sommes si souvent raconté, tu te souviennes que c'est la bonté qui est la normalité du monde, car la bonté est courageuse, la bonté est généreuse et jamais elle ne consent à être comme une embusquée qui, à l'arrière, vit grâce au sang des autres. Nul ne peut expliquer la grandeur de ceux qui font la richesse du monde. Donne du courage autour de toi et n'accepte jamais ce qui te révulse.
On aura commencé par Pékin, par les théâtres fermés, on a poursuivi avec la belle jeunesse qui répète, la colline qui ouvre. On aura fini à Beyrouth, après la tragédie, pour voir comment, encore, le théâtre pouvait tenir la vie en vie. Merci à Sifan Chao depuis Pékin, à Omar Abiazar depuis Beyrouth, aux voix de Claudio Longhi à Bologne, Aristide Tarnagda à Ouagadougou, Gal Hurwitz à Tel Aviv. Proche, le spectacle de la belle jeunesse, ce sera bien les 8, 9, 10 octobre, au théâtre Louis Aragon à Tremblay en France. Merci à Véronique Lamandour pour la réalisation de cette première émission de la saison, à Inès Duperron qui pense et prépare avec moi, à la technique ce soir, merci à Benjamin Vignal et Valentin Azan-Zelensky. On finira donc avec les mots de Wajdi Mouawad, donne du courage autour de toi et n'accepte jamais ce qui te révulse. Ça lance notre saison, elle a démarré, il sera bientôt 21h, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de la fiction.